Ben, j'ai compris, vous connaissez tous, j'ai compris. Alors je vais peut-être faire un petit historique rapide. Donc le projet il a été créé en 2000. L'objectif c'était de fournir un logiciel éducatif de qualité sur GNU Linux pour les enfants de 2 à 10 ans. C'est utilisé dans le monde entier, donc avec une grosse volonté de le rendre international, avec les contraintes que ça apporte, les difficultés, mais vraiment la volonté de s'attaquer à ce problème dans toute sa complexité. Donc au départ, GTK, c'était un peu à la mode en 2000, donc on retrouve un peu, quand on fait un peu d'archéologie sur les projets, on voit un peu on voit la technologie qu'il utilise, on peut à peu près savoir en quelle année il a été démarré. C'est un peu comme les datations carbone 14, mais c'est un peu le même principe. Donc, l'idée de départ, quand même, c'était de dire, avec j'ai compris sur Linux, toutes les écoles elles vont passer sous Linux, et puis ça va être chouette, quoi. Mais il y a eu un petit raté, ça a mis un peu de temps à démarrer. Donc je me suis dit, bon, finalement, comme il n'y a pas beaucoup d'écoles qui vont sur Linux, on va peut-être nous faire l'effort d'aller sur Windows. Mais ça me gênait un peu quand même d'aller sur Windows et de faire tout ce travail pour favoriser en quelque part une plateforme qui n'est pas la mienne et que je n'utilise pas. Donc j'ai choisi une démarche un peu originale dans le monde du logiciel libre. C'est de faire une version payante sur Windows tout en gardant le logiciel libre. Donc l'idée c'était de vraiment donner un avantage à la version GNU Linux pour que les écoles qui passent au GNU Linux, ben, elles ont tout Linux, tout gratuit, tout libre, tout ça. Et ceux qui restent sous Windows, ben, ils n'ont qu'à payer, quoi. Ils ont déjà payé Windows, donc pourquoi ils ne paieraient pas, j'ai compris, en plus. Pas de raison. Donc ça a plutôt bien marché, ça m'a permis de motiver pour continuer le projet. Ça a permis d'avoir plus d'audience, de participer dans les projets français type ENR, pour École Numérique Rurale, c'est des projets gouvernementaux qui ont financé les écoles pour s'équiper. Mais pour financer des écoles pour s'équiper, il faut vendre quelque chose. Si on le donne, ben ça ne les intéresse pas. Donc il a fallu le vendre et c'était très intéressant puisque c'était un projet qu'on vendait. Donc ça nous amène un peu, donc le logiciel il a évolué, il y a maintenant 140 activités dans la version GTK, et ça nous amène en 2014 où l'architecture ou le landscape, je ne sais pas comment dire en français, mais le paysage des utilisations, des usages des ordinateurs en classe et chez les gens ont été complètement bouleversés ces dernières années. Aujourd'hui, le PC de bureau devient un petit peu... Déjà, rien qu'on voit marqué PC de bureau, ça fait un peu poussiéreux quand on voit le mot. Donc, ça ne va peut-être pas aller en s'améliorant. Ça restera probablement un truc de spécialiste réservé aux informaticiens. Et les tablettes iront à monsieur tout le monde. Donc, on retrouve cette tendance à la fois chez les utilisateurs personnels et on retrouve cette tendance dans les écoles. Donc l'idée c'était de se dire faudrait pour pouvoir continuer à être pertinent dans ce domaine, soit on laisse j'ai compris, ben, ça va mourir sur PC, ça restera juste pour ceux qui ont des PC, soit on se décide à faire quelque chose et à proposer une solution pour les tablettes. Donc je me suis posé la question, ok, quelle technologie choisir pour faire ça? Pas facile. Donc l'idée c'était de dire le cahier des charges, c'est je veux pouvoir, à partir d'un code base unique, parce que je n'ai pas des ressources illimitées comme les studios de jeux pour faire une version pour ceci, une version pour cela, et faire des portages dans tous les sens en permanence. Donc je veux un code base unique et je veux être capable de fournir une version qui tourne sur les tablettes principales du marché et les OS de PC principaux du marché. Donc Linux, Windows, iOS et Android, non Mac OS X, pardon, et Android, iOS et peut-être Windows Phone si un jour ils ont des parts de marché suffisantes pour qu'on puisse daigner s'intéresser à cette plateforme. Donc j'ai fait des tests. Les candidats pour faire ça, ben, il y a HTML5 qui est un candidat intéressant puisque ben, on fait l'application, il suffit d'avoir un navigateur et puis de n'importe où on peut l'utiliser. Je fais un essai, effectivement, on y arrive, ça marche, on arrive à faire une activité en HTML5. Donc j'en ai codé une que j'ai mise en ligne sur le site de J'ai compris. Il y a une activité pour l'apprentissage des langues qui est disponible et on peut y accéder depuis un navigateur. Et ensuite, j'ai fait un deuxième test avec la technologie Qt Quick que je ne connaissais pas puisque je n'utilisais pas ni Qt Quick. Donc c'était une découverte pour moi. Et j'ai été très très séduit par cette approche. Donc les plus gros critères pour moi sont la qualité de l'environnement de développement. Donc il y a Qt Creator, mais c'est surtout le fait qu'on est vraiment dans un mode projet. On n'est pas dans du JavaScript où on pose des fichiers à droite à gauche, où on prend des librairies, il n'y a rien d'unifié vraiment. Là, on peut vraiment faire on est dans un vrai projet où on fait un build, un système de build. C'est un environnement qui me semble, moi personnellement, qui me convient mieux. Des meilleurs graphismes, puisque en fait, on a un graphe de scène qui est basé sur OpenGL. Donc, de meilleurs graphismes que ce qu'on fait aujourd'hui sur du HTML5. Par exemple, on peut faire des particules, on peut vraiment aller très très loin. C'est beaucoup plus simple à développer parce qu'en fait on n'a qu'une seule technologie alors qu'en HTML5 c'est un peu un agrégat de technologies qu'on est obligé de déployer pour arriver à faire quelque chose. On va mettre du jQuery, des canvas, des ceci, du CSS, du HTML. Donc il y a un espèce de micmac de technologies qu'il faut connaître, qu'il faut arriver à mettre ensemble. En HTML5 aussi il y a toute cette problématique où on est dans le navigateur. Et on va chercher à optimiser les temps de transfert. Donc toutes les images, elles arrivent par le réseau. Donc on va avoir un système qui est complètement asynchrone. On ne sait jamais que l'image est là avant qu'elle soit arrivée. Et donc tout le code va s'exécuter de manière complètement asynchrone. Ce qui, en termes d'optimisation pour les affichages, c'est extrêmement intéressant et c'est très adapté. Par contre, pour faire des activités pédagogiques où on se dit il y aura des enseignants, peut-être des gens pas forcément au top de la technologie, mais qui ont une bonne approche pédagogique et qui aimeraient la rentrer dans le logiciel, c'est intéressant de leur proposer des environnements de développement qui soient beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles à lire et à débugger. Et donc, dans Qt Quick, on va avoir une approche, un langage qui s'appelle QML, qui est un langage descriptif. Et on va pouvoir rajouter du JavaScript pour pouvoir rendre les choses un peu dynamiques. Donc on peut faire le parallèle entre HTML et CSS. Donc HTML, CSS, ce serait un peu du QML. Et dans le JavaScript, on a aussi en HTML, on a aussi le JavaScript. Donc on retrouve un petit peu cette architecture. Donc, Qt et Quick, j'ai repris directement la définition un petit peu de Wikipédia. Donc, l'aspect qui est le plus intéressant, c'est l'aspect dynamique et l'aspect déclaratif. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire en QML, on va pouvoir juste exprimer ce qu'on veut. Et les propriétés d'un objet QML graphique, par exemple, si. On va pouvoir l'exprimer en fonction de l'état de quelque chose d'autre. Et automatiquement, cet objet, il va changer d'état dès que cette variable va changer. Là où, par exemple, dans du CSS ou HTML5, on va être obligé de dire, ben, si j'ai détecté que la fenêtre a changé, la taille de la fenêtre a changé, eh ben, je vais retailler tel et tel objet pour qu'il soit plus grand. Là, on va raisonner de manière inverse. On va dire, ben, mon objet, il est égal à 30% de la taille de la largeur de la fenêtre. C'est tout. Et quand la largeur de la fenêtre change, ben, comme lui, il a déclaré que c'était 30% de la largeur de la fenêtre, ben, il prendra 30%, il va se redimensionner en conséquence. Donc, on peut le faire pour des aspects graphiques, mais on peut le faire aussi. Ce mécanisme-là, il est intéressant pour les aspects, pour toute la partie programmation des éléments graphiques qu'on va vouloir programmer, quoi. Donc les points forts de QML, c'est rapidité de développement. C'est vrai que là, on a vraiment un environnement qui est vraiment hyper simple. On a QML, c'est super bien documenté. On n'a pas 1 000 technologies à déployer, à apprendre. Facile à étendre, on peut très facilement donc développer du code C++ et le lier à son code QML. Donc c'est par exemple dans J'ai compris, la nouvelle version, il y a à peu près une dizaine de classes en C++ et qui sont accessibles depuis la partie QML. Par exemple, tout ce qui est configuration, gestion du fichier de configuration, ça va être fait en C++. Le téléchargement des voix, des choses comme ça va être fait en C++, qui est plus approprié. Mais on y accède très très facilement à partir du QML. Et le point fort, c'est rapide au rendu. Donc là, on a vraiment un graphe de scène OpenGL et ça on a des sans faire d'efforts, on a vraiment des applications qui sont extrêmement fluides et vraiment dynamiques. Pourquoi KDE? En fait, j'ai compris, ça a toujours été développé dans un environnement communautaire. Donc depuis 2000, très rapidement, dès que j'ai sorti le projet, c'est devenu un projet GNOME. Ce qui a une importance majeure pour tout ce qui est l'internationalisation, ça permet de s'appuyer vraiment sur des projets qui ont un peu d'envergure et qui ont des équipes qui ont mis en place des process autour de la traduction d'applications. Et on peut vraiment s'appuyer dessus. Bonjour. Donc lorsque le projet est passé en janvier dernier, j'ai fait l'annonce du portage de J'ai compris en Qt Quick, qui est plus qu'un portage, c'est vraiment une réécriture, hein, puisqu'on on récupère uniquement la partie graphisme, les jeux de données de certaines activités qui ont été un peu tunées au fil du temps pour les rendre très, très pédagogiques. Il y a l'expérience utilisateur de l'ancienne version, mais globalement, à part ça, c'est une réécriture complète. Donc, lorsque j'ai pris cette décision, j'avais aussi donc, on se retrouve dans la même problématique d'avoir besoin de s'appuyer sur des équipes de traduction. Et donc, d'où l'intérêt majeur de se retourner vers KDE. Il y a un autre avantage aussi à être dans KDE ou un autre point fort d'un point de vue de la Logitech logiciel libre, c'est qu'il y a un gros projet qui s'appelle KDE Edu, qui comporte un certain nombre d'applications, notamment plus pour le collège que pour le primaire. Et donc j'ai compris, rentre parfaitement dans cette Logitech pour compléter un ensemble de logiciels éducatifs qu'ils ont déjà, quoi. Donc stratégie de portage, comme je t'ai dit, en fait, on réécrit tout. Hein. J'ai essayé de réfléchir. C'est vrai qu'il y a 140 activités, il y a beaucoup de lignes de code, quelque chose comme 100 000 lignes de code. Donc ça fait beaucoup. Ça fait un peu peur au début, quand on se dit on va tout réécrire. Finalement, à un moment donné, j'ai essayé de réfléchir à des stratégies, de dire ouais, on va faire une plateforme de couche d'abstraction qui permettra de faire en sorte que l'ancien code il va s'exécuter sur une plateforme qui en dessous il y aurait du QML, tout ça. Enfin bon, on peut imaginer un peu toutes les stratégies. Et au bout du compte, la vraie problématique, c'est que l'ancien code, il a été conçu pour fonctionner sur des écrans en 800 par 600. Et après, on zoome, donc on arrive à. Ça fonctionne très bien sur PC, sur des résolutions plus grandes. Mais ce n'est pas optimal. Et aujourd'hui, on veut fonctionner sur des smartphones, on veut fonctionner sur des tablettes et on veut fonctionner sur des écrans géants. Et donc, pour pouvoir faire ça, il ne faut pas uniquement zoomer, il faut aussi repenser chaque interface, l'interface pour qu'elle s'adapte vraiment à à une taille d'écran. C'est pas juste zoomer, ça c'est pas satisfaisant. Donc pour pouvoir donc déjà toute cette partie-là, tout ce qui était codé en dur dans l'ancienne version avec ses résolutions, ben c'était trop compliqué à repenser, ça obligeait à repenser vraiment trop les choses. Et aussi, QML apporte un certain nombre de fonctionnalités, des layouts pour positionner les objets, des animations, ben, de manière très facile, on peut faire des animations, changer des couleurs de manière, au lieu de changer une couleur de manière fixe très rapidement, on peut lui dire, ben voilà, la couleur, quand tu la changes, tu mets 200 millisecondes pour changer de couleur. Et lui, automatiquement, il va nous faire un rendu pour que la couleur, quelle que soit la couleur qu'on avait avant, quelle que soit la couleur qu'on avait après, ben, ça met 200 millisecondes pour changer de couleur et que ça fasse joli. Donc, tout ça, pour pouvoir en bénéficier, ben, on est obligé de repartir sur du natif. On ne peut pas partir sur une couche d'abstraction où on n'aura jamais ces fonctionnalités. C'était pas jouable. Donc là, l'ancienne version, c'était aussi basé très fortement sur SVG. Donc, comme on récupère tous les SVG, mais que maintenant on fait les rendus à la taille native de l'écran et non plus à une taille plus basse qu'on zoome, on a, même avec les anciens graphismes, en les récupérant, on a tout de suite l'effet de la qualité d'image du SVG. Dans les critères de contraintes que je me suis donné, c'est la possibilité de fonctionner en portrait ou en paysage. La plupart des applications, des jeux ou même des applications pédagogiques que j'ai vues, elles se figent elles font un choix portrait ou paysage. Ça simplifie beaucoup les choses. Mais je me suis dit, ben, plus qu'on y va et qu'on repart de zéro, on prend les contraintes les plus dures et on y va. Donc ça coûte un peu de faire ça. Bah, une fois qu'on a pris le coup, les premières activités, c'est un peu difficile, mais une fois qu'on a pris le coup et qu'on a le bon environnement et les bons outils, ça va très très bien, ce qui fait que c'est plus vraiment un problème. Maintenant, je me pose plus de questions là-dessus, quoi. Une fois, je me dis, tiens, je l'ai jamais essayé dans l'autre sens, je vais voir, ah oui, c'est bon, ça marche. Chaîne de compilation CMake, voilà, bon, parce qu'on était en. L'ancienne version était avec les autotools de GNU, donc comme on passe chez Qt et chez KDE surtout, chez KDE, KDE ils utilisent CMake, qu'on va s'intégrer dans leur système de traduction, tout ça, donc c'était important de choisir la chaîne de compilation CMake. Voilà, architecture de la nouvelle version. On a un cœur en C++ dans SRC Core, donc avec une dizaine de classes. Donc principalement, il y a le main pour démarrer l'application, ouvrir la première fenêtre en QML, démarrer la première activité en QML, donc la fenêtre de base, créer la fenêtre principale, gérer principalement les dialogues, les téléchargements de voix, des choses comme ça. Chaque activité est dans un dossier, donc on avait ça avant. Une activité peut étendre une autre activité et lui fournir un jeu de données. Donc, par exemple, on va faire une activité qui est le jeu du memory, là où il faut trouver les paires de cartes. Bon, ben, ce jeu-là, on peut le décliner en faisant des jeux de données différentes. On peut soit trouver des images qui correspondent les deux mêmes images, soit on peut dire, ben, je vais trouver 0 en chiffres et 0 en lettres et trouver les paires. Et donc, on se rend compte que c'est vraiment le même jeu, c'est vraiment que juste un jeu de données qui change. Donc, on peut créer une activité et on peut facilement l'étendre et lui passer un jeu de données. Auquel cas, la nouvelle activité, c'est vraiment une coquille vide où dedans il y a la description de l'activité, son icône, l'aide et le jeu de données qui est passé à l'autre activité. À la compilation, donc ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. À la compilation, chaque activité est zippée dans un fichier RCC, donc c'est des fichiers ressources de Qt, qui est chargé au lancement. Donc si on regarde le répertoire d'installation de Gcompris, là où on installe Gcompris, où on le déploie, en fait ce qu'on va voir maintenant, c'est un binaire Gcompris, un répertoire dans lequel il va y avoir un fichier RCC par activité. On va avoir memory.rcc, clickgame.rcc, et ainsi de suite. Et on va avoir un dossier avec toutes les traductions. Donc c'est pratiquement tout ce qu'on voit. Dans les RCC, on va retrouver le code QML qui correspond à l'activité et le code JavaScript. Et les ressources multimédia, les images, les sons, s'il y a des sons qui sont spécifiques à cette activité. Donc chaque activité, on peut aussi, et on le fait pour les sons par exemple, les télécharger depuis un serveur. On pourrait très bien facilement imaginer que quand on rentre dans une activité, plutôt que de l'avoir en local, on a téléchargé le RCC, qu'on le sauve en local, et qu'on charge l'activité comme ça. Ça pourrait être intéressant pour tout ce qui est déployer des nouvelles activités, les mises à jour, enfin... Aujourd'hui, on le fait uniquement pour les voix. Donc pour les voix sur Android, quand on télécharge la version Android, dans le APK, donc le binaire zippé de Android, on va retrouver donc le binaire de J'ai compris et tous les RCC des activités. Et quand on le lance, il va dire, voilà, j'ai détecté que vous n'aviez pas le fichier voix pour votre langue, est-ce que vous voulez que je le télécharge? Et là, ça va télécharger le fichier RCC qui contient toutes les voix. Et ce fichier va être, quand on est dans la langue française, on va charger le fichier frenchvoice.rcc et ça va s'intégrer dans J'ai compris. Chaque activité dira, je veux jouer tel fichier son et ça va jouer le fichier français. Donc plus que le portage, on se rend compte qu'il y a eu un... C'est plus que le portage, c'est qu'avant de commencer le portage, il y a un travail d'architecture et un travail de créer vraiment une base technologique qui nous permette de créer un grand nombre d'activités. Il ne s'agit pas juste de créer une activité. En QML, c'est facile. Faire en sorte qu'on ait une plateforme qui nous permette d'en créer 100, voire plus, ça demande un peu plus d'effort quoi, pour bien penser les choses dès le départ. Donc comment on crée une activité? Donc pour ceux qui sont inscrits à l'atelier, je ne sais pas s'il y en a qui sont inscrits à l'atelier ici demain. Non? D'accord, donc c'est intéressant que je montre un petit peu. Donc pour créer une activité, ben on fait on va dans le répertoire SRC Activities, on lance le script qui s'appelle Created. Par exemple, ici on va créer une activité qui s'appelle Ordonne. On relance CMake, on lance J'ai compris et l'activité Ordonne, elle est présente. On l'ouvre et donc on a un petit template d'activité où dedans il y a juste un petit fichier, un petit texte qui s'affiche. Donc il n'y a plus qu'à coder l'activité dans le répertoire SRC Activities ordonne.qml. Donc ça va vraiment très très vite. L'API. Donc chaque activité c'est un élément activity base, donc ça c'est un élément QML. Dans celui-ci, on va ajouter des objets. Donc, c'est un patch component. Donc, un patch component, c'est des objets où, quand on est dans une application sur mobile, quand il y a des pages qui défilent dans ce sens ou dans ce sens. Donc, on va coder l'activité dans sa page. On va rajouter donc un dialogue help pour avoir le panneau d'aide, une barre et un bonus. Donc, tout ça, c'est fait automatiquement par le template. Donc quand on crée une activité avec le petit script created, ça fait automatiquement tout ça. Mais il n'y a vraiment pas grand-chose. Et là, on a une activité vide avec un petit texte qui fait coucou. Et il n'y a plus qu'à remplacer ce texte par ce qu'on veut faire. Là, on fournit un certain nombre d'outils. Donc là, on n'a pas eu une approche... on n'a pas eu une approche bottom-up, en fait, du bas vers le haut. On a eu plutôt une approche du haut vers le bas. C'est-à-dire, on a commencé à coder des activités. Et à chaque fois, on s'est dit, bah ouais, mais ça, j'ai besoin d'un clavier virtuel. Ah bah ouais, mais ce clavier virtuel, il est utilisable, il est utile pour d'autres activités potentiellement, même si j'en fais qu'une pour l'instant. Donc, on va le mettre ça en commun. Donc, dans le répertoire SRC Core, on va retrouver donc des classes C++ et des classes QML qui vont être... qu'on pense être réutilisable ou par les différentes activités qui peuvent être utiles. Donc on a un clavier virtuel, donc on va pouvoir lui passer les touches qu'on veut afficher. Donc c'est plus intéressant d'un point de vue pédagogique pour les enfants que le vrai clavier virtuel de Android, qui peut s'avérer beaucoup plus compliqué ou avoir des touches qu'on ne veut pas présenter. Par exemple, dans l'activité où on a les lettres qui tombent, Ben, on apprend le ABCD, ben, on fait un clavier virtuel avec ABCD. C'est pas la peine d'avoir un clavier virtuel avec Shift, Alt, accéder à toutes les touches que l'enfant il n'a pas encore appris. Donc c'est vraiment un clavier virtuel, je dirais métier, quoi, vraiment, juste ce qu'on veut. Un numpad, donc là c'est un petit clavier numérique, donc là où on va afficher que des numéros qui vont s'afficher plutôt à gauche et à droite de l'écran. Donc pour les activités plus mathématiques où on veut pouvoir rentrer des chiffres. Deux canaux audio pour les. Donc un GC audio pour les. En fait, voilà, ouais, GC audio c'est pour les voix et les effets. Donc il y a deux canaux audio qui sont créés dans le cœur de J'ai compris. Et qui vont être contrôlés par l'utilisateur, où il va pouvoir dire je veux désactiver les voix ou je veux désactiver les effets. Et dans une activité, on va faire gcaudio.play et on passe le nom du fichier, ça va le jouer. Ou si on veut que c'est si c'est des voix et qu'on veut les concaténer pour faire une phrase, par exemple, on va faire gcaudio.append, quelque chose comme ça, ou .push. Pour rajouter une voix pour qu'elle soit jouée à la suite de l'autre, quoi. Un GC texte qui est globalement, en fait, le GC audio, il est devenu un peu compliqué parce il y a cette file d'attente, il y a cette queue qui est un peu une surcouche par rapport à l'objet de base audio de QML. Le GC texte, lui, il est vraiment juste fait pour forcer une police. Donc, dans le menu de J'ai compris, on peut choisir une police, par exemple, pour dyslexique. Et tous les textes de J'ai compris, puisqu'ils passent par GC texte, ils vont s'afficher avec la police pour dyslexique. Après, des choses un peu plus gadgets, Particle System Star pour faire des effets jolis, d'étoiles pour montrer un effet de réussite. Un bouton, un insert button qui va pouvoir changer de couleur quand on a réussi ou quand on n'a pas réussi. Voilà, donc on cherche à rendre un petit peu des choses un peu uniformes sur des expériences utilisateurs. Mais ce n'est pas quelque chose sur lequel on se focalise ou beaucoup, beaucoup. Cherche à, plutôt que chaque activité, elle peut avoir son style qui lui est propre, ce n'est pas complètement gênant. Donc à ce jour, on a apporté 84 activités sur les 140, sachant qu'on a commencé surtout par les plus simples. Donc le temps risque de. Bon, on a commencé par les plus simples, mais on devient de meilleur, de mieux, de, on est de mieux en mieux, on connaît de mieux en mieux la plateforme. Donc, on va de plus en plus vite aussi à corriger les problèmes et à coder des nouvelles activités. Donc là, c'est plutôt une bonne surprise, hein. Quand j'ai lancé le projet en janvier, j'ai estimé qu'il me faudrait 1 à 2 ans pour faire le portage. Là, 84 activités, on est en novembre, ça fait partie du côté optimiste que j'avais, quoi. Je suis plutôt dans la phase j'avais bien intuité optimistiquement. Une super bonne nouvelle, c'est 12 contributeurs. Donc c'est 12 contributeurs donc qui viennent de la communauté KDE. Peut dire pas forcément complètement de la communauté KDE, il y a des gens qui viennent pour J'ai compris. Mais en tous les cas, c'est des contributeurs qui n'étaient pas contributeurs de l'ancienne version. Donc la nouvelle technologie attire aussi un certain nombre de nouveaux profils de développeurs. Il y a des gens qui étaient intéressés par l'ancienne technologie, par pas mal de gens qui étaient fans de Python, qui ne vont pas rejoindre la version J'ai compris en Qt, parce que ce qui les intéressait, c'était l'aspect pédagogique, J'ai compris, mais aussi le langage Python. Donc c'est difficile de satisfaire tout le monde dans les choix technologiques, c'est un peu religieux. Mais quand même, c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à attirer des nouveaux contributeurs et des gens qui viennent sur le projet contribuer. On a participé cette année au Google Summer of Code dans le cadre de KDE. On a deux étudiants aussi en ce moment dans le cadre du Google Coding, donc qui est un peu le petit Google Summer of Code de l'hiver. Donc ça permet de faire rentrer des jeunes, de faire connaître j'ai compris, faire connaître le développement QML. Ça permet parfois, quand ça marche, d'avoir des vraies contributions intéressantes. C'est pas toujours le cas, mais ça vaut le coup. Ça demande un peu d'effort de mentor pour revoir un peu tout ce qui a été créé, pour guider les étudiants. Mais ça fait partie, je dirais, un petit peu de l'aspect de ce que moi j'aime de J'ai compris. C'est quand même un projet communautaire et donc on a envie qu'il y ait des gens qui viennent développer, coder, et on a envie de les aider, on a envie de partager le plaisir du code et le plaisir du code bien fait. Donc c'est bien. Gros effort sur les graphismes, l'expérience utilisateur. Donc l'idée, c'était pas de reprendre J'ai compris et de le porter sur tablette. Donc on s'est vite rendu compte que, après les contraintes techniques que je vous ai exposées, que ça donnerait pas que quelque chose de très très intéressant graphiquement, et qu'il fallait pour beaucoup, pour chaque activité, les repenser pour une utilisation tablette, pour exploiter les possibilités des animations, sans faire trop en faire trop et sans faire trop de surcharge, mais quand même les exploiter pour lorsque c'est utile. Donc on a réintégré des nouveaux graphismes, on a fait des animations. Voilà. Donc tout ce travail, il est vraiment vraiment fait. Sur les graphismes, on a un projet aujourd'hui avec Timothée, donc qui est ici, qui est un des graphistes de la communauté KDE, il est très intéressé par refaire une passe sur J'ai compris pour rendre les graphismes uniformes. Aujourd'hui, ça reste, même si ça paraît joli, ça reste quand même un peu un amalgame de. Moi, je vais sur OpenClipArt, je prends une image qui me semble jolie, je la mets, je fais du SVG, donc je copie un petit peu les objets, je mets plus gros, plus petit, tac, tac, je tourne un peu, ça fait une image. Chaque image, elle est assez jolie en soi, mais le tout n'est pas du tout cohérent. Il n'y a pas d'unité graphique, il n'y a pas de charte graphique, il n'y a pas tout ça. Donc Timothée est très très intéressé. Quand Timothée est indépendant, c'est son métier. Donc moi j'ai pas de budget pour le financer. Donc on se lancerait dans quelque chose qu'on n'a jamais fait sur J'ai compris, c'est de faire un crowdfunding, je sais pas comment on dit en français, un financement participatif. Voilà, c'est ça. Donc on se lance dans on est en train de mettre en place un financement participatif qui serait focalisé sur financer Timothée pour qu'il nous refasse les graphismes de J'ai compris dans un style cohérent. Et la cible Android pour commencer, parce que sur desktop, la version J'ai compris qui existe sur Linux et Windows est beaucoup plus avancée. Il y a 140 activités, donc c'est beaucoup plus. C'est plus complet, donc ce serait compliqué pour moi de sortir une version de J'ai compris qui est plus jolie mais qui a moins de choses. Sur PC, c'est un peu compliqué, quoi. Sur Android, il n'y a pas de J'ai compris, donc je peux lancer 10 activités, les gens qui aiment J'ai compris seront contents de l'avoir, quoi. Donc l'idée, c'est de cibler Android et de faire une version, donc toujours dans le même modèle d'essayer de trouver des financements et de faire payer les utilisateurs. Donc il y aura une version avec deux démos et une version complète payante. Donc les gens, ils pourront télécharger la version de démo, ils auront que quelques activités, comme je fais sur Windows, quoi. C'est exactement le même modèle. Donc pas de publicité, pas d'achat à l'intérieur de l'application et pas de dépendance à Internet. Donc ça, c'est que des critères qui sont, d'un point de vue éthique, qui me semble extrêmement important, surtout quand on cible des enfants, encore plus quand on cible des écoles, quoi. Ça me semble pas judicieux de mettre des publicités là-dedans. On ne sait pas du tout les publicités qui peuvent s'afficher d'ailleurs. Donc cible Android. Et vous me dites, mais quand ça va sortir? C'est pas sorti, non? Non, non. Donc aujourd'hui, il y a 84 activités qui sont qui marchent bien toutes. Il y a quelques petits détails à régler à droite à gauche, des petites améliorations d'utilisation à améliorer, mais globalement ça marche bien. Donc là, j'ai décidé depuis septembre de faire un freeze et de dire bon, je fais pas de nouvelles activités, je me concentre uniquement sur la stabilisation du code et mise en place de tout ce qui est infrastructure de traduction qui va être faite par les équipes de KDE. Donc aujourd'hui, on est dans cette phase-là. La grosse étape, c'est de refaire tout le manuel de J'ai compris, donc toutes les chaînes de texte de J'ai compris. Actuellement, j'ai repris exactement les mêmes chaînes que ce que j'avais dans la version GTK. Comme ça permet de récupérer toutes les traductions. Mais sauf qu'à plein d'endroits, dans les chaînes GTK, il y a marqué prends ton joli pointeur de souris et clique à tel endroit. Et là, c'est plus une souris, c'est un doigt. Donc, c'est pas du tout adapté. Je dirais 80%, peut-être faudra changer, mais. Ça. Ben, faut repenser. Moi, je vais pas faire une chaîne pour. Si t'es en, je vais pas faire une doc si tu es en touchscreen ou si tu es en souris. Ça me semble pas jouable. Donc, faut repenser les textes pour dire ben, ce texte-là, il doit être compris par celui qui a un doigt comme étant je dois toucher ça. Et celui qui a une souris, je dois toucher ça avec le pointeur de souris. Donc là, il y a un travail un petit peu d'éditorial de texte à mettre, ou peut-être ça peut être une phrase, on dit clique avec ton doigt ou avec la souris, mais essayer de trouver la bonne formulation pour que le texte il marche pour tout le monde, quoi. On est toujours dans l'esprit, un seul code pour tout le monde. Et on peut même pas se séparer, pardon, je finis, on peut même pas se. À un moment donné, je me suis dit, je vais faire des textes pour PC, des textes pour tablette, mais en réalité, sur une tablette, tu peux mettre une souris et sur un PC, tu peux mettre un touchscreen. Et donc, tu sais pas du tout quand tu lances l'appli réellement, même s'il a un touchscreen, ça se trouve, il se sert d'une souris. Donc, si je détectais même un touchscreen, ça se trouve, le prof, il a dit, ben non, cette activité, vous allez la faire avec la souris sur une tablette parce qu'on veut apprendre la souris. J'écoute ta question. Ouais, mais ouais, c'est ce que je viens de dire, c'est que je sais pas. On pourrait détecter au début de l'utilisation. Je pensais cette réflexion, on pourrait détecter, tiens, si on a des, si on reçoit des événements touch, de dire bon ben on est en mode touch. Et si on n'en reçoit pas, ben on est en mode souris. Mais encore, je sais même pas si par exemple quand on est sur une tablette Android, quand on met une souris, je sais pas si moi je vais pas recevoir des événements touch qui ont été émulés par le driver souris de Android. Je sais pas comment ça se passerait. Et après sur iOS encore, je sais pas du tout. Donc sur iOS on peut pas brancher une souris. Et ceux qui ont pas de doigts, comment ils font? Parce qu'ils sont gentils chez Apple, mais les gens qui ont pas de doigts, comment ils s'y fait Hawkins le. Bon. Donc voilà la stratégie de déploiement. Donc aujourd'hui, on en est là. J'espère, premier trimestre 2015, de sortir une version sur Android. Et après, sur iOS, ça pourrait se faire dans la foulée si ça me rapporte assez d'argent pour acheter un iPad. Voilà. C'est très très facile et très marrant de développer une activité dans J'ai compris. Et donc si vous avez envie de découvrir Qt Quick en faisant quelque chose d'utile, moi je vous conseille. C'est un bon exercice de découvrir Qt Quick. L'environnement est vraiment plaisant et ça vaut le coup de le faire sur une activité de J'ai compris. Pour vous donner un exemple pour l'atelier de demain, j'ai prévu une séquence. Donc l'idée c'est de développer une activité pédagogique. Donc c'est l'activité de symétrie. Donc on a des carrés à droite avec certains carrés avec des couleurs. Il faut qu'on reproduise le même élément. On sélectionne des couleurs et il faut qu'on reproduise le même élément à gauche. Donc c'est juste avec des zones de carrés, avec le doigt ou la souris, on va peindre. On choisit une peinture et on va peindre le carré. Je l'ai développé un soir et je l'ai fait pas à pas pour pouvoir le faire sous forme d'atelier. Donc entre créer l'activité et l'activité complète, je l'ai fait en 10 commits. Et au bout du compte, ça a fait à peu près 300 lignes de code. Donc l'activité complète ou 300 ou 400 lignes de code, quelque chose comme ça. Et l'activité, elle est à un niveau là où je pourrais l'intégrer dans J'ai compris. Donc c'est vraiment, vraiment super, super agréable. Vous voulez que je vous montre? Ça, c'est l'activité. Alors, je vais commencer. Moi, je vais commencer par l'exécuter. En plus, vous n'avez même pas vu, j'ai compris. Vous n'avez pas vu à quoi ça ressemblait. Il y en a qui ne l'avaient pas encore vu sur tablette. Voilà, on retrouve les sections. On peut. Agrandir, mais on voit que quand on agrandit ici, on voit que c'est pas zoomé. Là, on voit on a quatre images de largeur. Là, on en a cinq. Donc, c'est pas juste zoomer les choses, c'est vraiment un vrai layout. Donc, on va avoir des effets de particules pour faire joli. Voilà. Et la nouvelle activité. Donc ça, c'est tout ce qui a été développé dans la nouvelle version. Et la nouvelle activité, elle est... Non. Donc j'en arrive déjà à un stade où je me perds dans les activités, j'arrive pas à les retrouver. Donc il y a toute la partie administration qu'on avait dans l'ancien J'ai compris, où on peut filtrer les activités, qui est mise en place aussi, où on peut ici choisir les activités par difficulté. Pour en voir moins. Voilà, donc ça c'est l'activité que je vais montrer demain. Donc là c'est pas en symétrie. Je crois qu'il faut faire la même chose. Mais bon, pour ce niveau-là, que ce soit symétrique ou pas, ça change rien. Voilà, donc cette activité-là, si vous voulez, on va regarder le code pour voir à quoi ça ressemble. Donc là, une activité base, c'est la classe de base de J'ai compris. Le page component. Donc là, on a notre image, on met notre image de fond pour que ça fasse joli. Bon, ça, c'est un objet qui permet de communiquer un peu avec le JavaScript et d'avoir les objets en commun qui sont visibles du JavaScript. Là, on va mettre un row. Donc ça, c'est un objet de type layout pour QML, pour dire voilà, maintenant les objets qui vont être à l'intérieur de ce row, tu me les mets de gauche à droite, quoi. Donc on va pouvoir spécifier des ancres pour dire à quel endroit cet objet doit s'accrocher par rapport à son parent, avec des marges. Donc ça permet de faire très rapidement de positionner ces objets. Là, ici, on a une colonne. Donc c'est la barre d'outils à gauche dans laquelle on va pouvoir choisir nos petits pots de peinture là. Là, on met un répéteur. Donc un répéteur, c'est un objet donc QML qui permet de créer différents objets, de créer, c'est un peu comme une boucle si on veut quoi. Sauf que la boucle, plutôt que d'être statique, ici elle va se baser sur un modèle de données. Donc ici là on fait un modèle de données extrêmement simple, donc ça c'est une liste JavaScript dans laquelle on a mis la chaîne blanc, rouge, vert, bleu. Donc ça veut dire que cette chaîne-là, en fait, le blanc, on va automatiquement, le répéteur, il va instancier une image en passant dans la variable modèle data la valeur blanche, la valeur white. Et donc ici, on va créer donc une, deux, trois, quatre, cinq, nos cinq images qui vont être créées à la suite. Comme elles sont dans un répéteur, donc ça va les créer pour chacun des modèles. Et comme c'est dans une colonne, eh bien, ça va être créé verticalement les uns à la suite des autres. Donc après, ici, on spécifie ben, la taille, la hauteur de l'image. Ici, ben, là, ça c'est intéressant, c'est on va dire ben, ici, l'échelle de l'image, ça va être, on va dire que c'est, si c'est ma couleur, ça, c'est cette variable, elle représente le sélecteur de couleur, donc celle qui est sélectionnée actuellement. Si c'est la variable, si c'est la couleur qui est sélectionnée actuellement, ben, mon scale, il vaut 1,3, sinon il vaut 1. Donc c'est là où on voit l'aspect dynamique du QML, où dans une approche traditionnelle, on aurait dû dire, ici on récupère sa souris, on aurait dû dire, quand on est cliqué, eh ben, je vais changer la taille de l'objet qui est sélectionné pour le remettre dans à une échelle de 1, et l'objet nouveau qui est sélectionné, je vais le mettre à une échelle de 1,3. Là, je n'ai pas besoin de faire ça, je dis juste, ben voilà, maintenant la sélection, dans cette variable-là, je mets la sélection du modèle data qui est sélectionné. Et automatiquement, chaque image, elle va s'adapter en fonction d'elle, elle va voir, ben moi maintenant je ne suis plus sélectionné, c'est plus moi. Donc c'est l'objet qui contient réellement ses comportements dynamiques. Donc là, on va créer une grille. Donc une grille, c'est un objet qui est un peu comme une colonne, mais à deux dimensions, quoi. Donc on va dire ici, là j'ai dit de manière figée que la colonne F est 4. Donc là, typiquement, c'est une limitation dommage parce que je ne peux pas faire des activités plus. Des jeux de données un peu plus complets. Mais voilà, pour une version finale, il faudrait rendre cette propriété liée au modèle de données du niveau de l'activité qu'on est en train de faire. Donc ici, on peut rajouter des fonctions en JavaScript à l'intérieur de chaque objet, donc qui permettent de lui rajouter des comportements. Là, je vais faire un reset pour, quand on change de niveau, repeindre toutes les couleurs en blanc. Donc là, ça fait une petite boucle sur le modèle pour remettre toutes les cases de la bonne couleur. Qu'est-ce qu'on a ici ? Donc on est dans un répéteur ici, donc on va créer un rectangle qui a une mouse area, donc qui peut être cliquable. Donc la mouse area, elle est cliquable, ça fait une émulation de souris sur tablette. Si on veut aller plus loin et qu'on veut faire du touch, par exemple cette activité, elle serait intéressante de pouvoir sélectionner une couleur et de pouvoir glisser comme ça. Là actuellement, avec ce code-là, ça ne le fait pas. On est obligé de cliquer sur chaque couleur. Pour le faire, au lieu de mettre mouse area, enfin même pas au lieu, c'est que à côté de mouse area, on va rajouter un multi-touch point area ou multi-point touch area qui lui, on va programmer, on va pouvoir lui dire, voilà, moi j'autorise, je suis actif lorsqu'il y a un doigt qui est appuyé ou deux doigts ou trois doigts. Peut faire ce qu'on veut, et ensuite on va dans le callback, comme là qui le on clicked, on va avoir un on touched, et on va pouvoir dire bon ben voilà, si c'est touché, donc voilà ce que je fais. Donc c'est très simple de rajouter le support du tactile, quoi. Faut le faire, faut le tester, faut. Voilà, donc ça c'est la partie où l'enfant dessine, et ça c'est la partie du modèle de ce qu'il faut faire. Donc ça c'est la grille de droite qui affiche ce que l'enfant doit recopier. Ici on voit qu'il prend un modèle qui est stocké là-dedans. Et si on regarde dans le JavaScript, On voit qu'en fait, le modèle, c'est juste un objet comme ça. Donc ça va être le premier niveau où dedans, on a les couleurs qu'on veut afficher. Donc ça, c'est passé en fait. Ce modèle-là, c'est stocké dans cette variable-là. Quand on est au niveau 1, on va stocker le premier bloc du modèle qu'on avait. Et pour la symétrie, bah, tout simplement ici, on peut mettre Layer Mirror Enabled. Donc pour la symétrie, au début, quand j'ai commencé à me dire, ouais, bah, il va falloir que je transforme mon modèle et que je vérifie que quand je suis en mode symétrique, que chaque case, c'est bien la symétrie, ça va me faire faire une boucle un peu compliquée quand je suis en mode symétrique ou pas symétrique, pour vérifier que l'enfant a bien fait la même chose. En réalité, non, je n'ai pas besoin de faire tout ça. Il suffit que je mette ici Layout Mirroring et automatiquement, la grille, elle s'affiche à l'inverse. Alors que le modèle de données est toujours le même que précédemment. Donc, il me suffit d'avoir un seul code pour dire, ben, je teste que les deux objets, c'est vraiment les mêmes, sans avoir à me préoccuper de la symétrie. Et si on regarde côté JavaScript, le code qui a été codé dans la partie JavaScript, donc là, start, c'est du code qui est générique, qui est créé par le template. Ça, c'est pour changer de niveau. Quand on change de niveau, j'appelle la petite fonction reset pour remettre toutes les cases blanches. Niveau suivant, niveau précédent, et j'ai rajouté une fonction check model qui boucle sur les deux modèles et qui vérifie dès qu'il y a une différence, qui renvoie false. Et donc, s'il n'y a eu aucune erreur, ben, ça renvoie true. Voilà, on a codé une activité dont j'ai compris. Ça a l'air facile, hein? Plus facile que dans le terrier en C++. Ouais, je pense, ouais. Vous avez des questions? Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça marche sur Android. Donc ça marche dans les deux sens. C'est la même musique, ouais. Voilà, ça marche dans les deux sens, c'est fluide, c'est. On peut faire vraiment plein de. Quand on va faire des. Bon, avec une seule main, c'est pas facile. Voilà, quand la balance elle bouge, il y a une petite animation qui fait que la balance elle bouge dans la. Dans l'ancienne version, pour faire bouger la balance, je ne sais plus si je l'avais fait, mais je crois que c'était soit elle était d'un côté, soit de l'autre, quoi. Ça bougeait pas aussi de manière aussi fluide, quoi. Il y a vraiment tout pour faire des animations. En fait, je voulais pas montrer les parties parce que dans le code qu'il y a, dans le code que je vous ai montré, il y a des animations. Hop, pardon. Où c'est qu'on voit des animations, ben ça par exemple, c'est ce qui fait que quand je clique sur une couleur, elle va changer tout doucement. Donc là, on met un comportement sur la couleur avec un objet de type color animation. Je dis ben quand je change de couleur, je veux que ça mette 200 millisecondes pour changer de couleur. Fait qu'on sent, c'est des petits détails qui sont extrêmement délicats, on s'en rend pratiquement pas compte parce que ça nous semble tellement naturel quand on a l'œil de voir la couleur qui change comme ça. Et vous allez voir là, hop, vous avez vu que la couleur elle change doucement. C'est subtil, c'est délicat, et c'est ça qui fait les aspects aussi finis de l'application, quoi. Ouais, quand ça grossit, ouais. Donc là, c'est un autre type d'animation. Quand ça grossit, c'est. Voilà, c'est tout ça. Le fait que ça grossisse et que ça fasse une animation, c'est juste cette ligne-là. C'est-à-dire, j'ai rajouté cette ligne et puis ça fait une animation. Donc on ne peut pas faire vraiment plus simple, là. J'ai du mal à imaginer plus simple.